Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue ce matin la série de prédications basée sur le livre du prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, on lira deux chapitres. En fait, du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, les quatre chapitres nous décrivent une seule et même vision que Dieu donne au prophète. Mais je me suis dit que quatre chapitres, ce serait un peu long pour un dimanche, donc je l'ai divisé en deux parties. Aujourd'hui, on fera donc la première partie, les chapitres 8 et 9, du livre du prophète Ézéchiel. Vous vous rappelez que la vocation, l'appel de Dieu à Ézéchiel commence par cette vision glorieuse et céleste du char de Dieu avec les chérubins, cette vision du chapitre 1, extraordinaire. Et ensuite Dieu donc assigne une mission au prophète. Le prophète doit retranscrire, transmettre exactement ce que Dieu souhaite qu'il transmette au peuple. Parce que la vie du prophète lui-même et la vie de ses auditeurs dépendent de la fidélité à la parole donnée, la parole de Dieu. On a vu la fois dernière les chapitres 4 et 5 où Dieu annonce au prophète que sa colère est comme un fruit mûr et que désormais le jugement de Dieu va frapper. Aujourd'hui aussi, on continue dans cette partie du livre du prophète avec des paroles des fois un peu dures. Mais voyez, quand on lit un livre prophétique, parce qu'il y a toutes sortes de littératures dans la Bible. Il y a de la poésie, il y a des prières, il y a des paroles de sagesse. Mais quand on dit, tiens, je vais lire le livre d'un prophète comme Ézéchiel, alors, il faut s'attendre à être choqué et surpris. Parce que le prophète nous dit des choses que naturellement, nous n'aimons pas entendre. C'est ça le prophète. Dis-leur ce que je veux qu'ils entendent. Peut-être qu'on aurait aimé que le livre du prophète Ézéchiel soit rempli de paroles douces. Et il y en a, notamment à la fin. Mais dans ses premiers chapitres, Dieu, à travers son prophète, adresse plutôt des paroles qui peuvent paraître dures à recevoir. Au chapitre 5, au verset 11, Dieu disait à Ézéchiel, donc par la bouche du prophète, chapitre 5, verset 11, « Vous avez rendu mon sanctuaire impur par toutes vos idoles répugnantes et abominables. Je passerai le rasoir sur vous sans un regard de pitié et j'agirai sans ménagement. Vous avez rendu mon sanctuaire impur. » Et là, on va commencer la lecture du chapitre 8. Où Dieu va expliquer exactement quelles sont ces impuretés, ces abominations qu'il voit, qu'il observe au sein même de son temple à Jérusalem. Ézéchiel chapitre 8. Le cinquième jour du sixième mois de la sixième année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu. Et au-dessus, il y avait comme l'éclat du métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux. Et l'esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation. Celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations très graves. On est là à un moment où les responsables du peuple de Juda en déportation viennent consulter ce Ézéchiel qui semble être un porte-parole de Dieu ici à Babylone. Nous qui pensions que Dieu nous avait rejetés, on entend qu'il y a ici un prophète qui parle de Dieu. Allons le voir et une délégation va voir ce prophète. Il ne nous a pas dit exactement le but de la délégation, mais Dieu saisit cette rencontre justement pour donner au prophète une vision. Le prophète est transporté en vision à Jérusalem, dans le parvis du temple, à l'entrée. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Une statue, la statue de la jalousie, la statue de la provocation. J'aimerais qu'on lise juste un verset, Exode chapitre 20, verset 5. Vous connaissez tous, j'espère, Exode 20, c'est la section des 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 5, Dieu dit, verset 4 même déjà, 4 et 5, « Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car c'est moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » Dieu avait explicitement exprimé au peuple son dégoût pour les idoles, en leur demandant de ne faire aucune statue, parce qu'il est un Dieu qui ne tolère aucun rival, un Dieu jaloux, qu'il ne faut pas provoquer. Et là, le prophète voit à l'entrée du parvis une statue qui provoque la jalousie de Dieu. Là, sur sa terre, là, à Jérusalem, là, près de son temple, une statue d'idole qui irrite le Seigneur. Mais Dieu lui dit, attention, tu n'as encore rien vu. Viens, viens, viens voir. Tu verras encore d'autres abominations très graves. Verset 7. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils d'homme, perce la muraille. Je la percé et une ouverture apparut. Il me dit, entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici que je vis dessiner sur la paroi, tout autour, toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes responsables de la communauté d'Israël se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et là, le prophète reconnaît quelqu'un. Et Yazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole ?» car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Verset 13, et il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent encore d'autres abominations aussi graves. La vision continue cette fois-ci avec une espèce de chambre. Le prophète d'abord voit un trou et Dieu lui dit « Perce » pour bien voir ce qui s'y passe. Il croit être caché. « Perce et regarde ce qu'ils font. » Et là, il voit sur les murs des dessins de reptiles répugnants, dégoûtants. Je me demande comment le prophète, là, il devait être dans sa vision. Comme de, ah, ça, ici, à Jérusalem, là, près du temple. Et Dieu lui dit, mais oui, c'est ce qu'ils font avec ces idoles répugnantes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais Dieu ne nous voit pas de toute façon. Dieu est parti, il a quitté le pays, il a quitté son temple. Alors on fait ce qu'on veut. Ces cultes d'adoration des reptiles, des serpents et autres étaient quelque chose qui se pratiquait plutôt en Égypte. On voit là les restes de ce que le peuple a transporté avec lui d'Égypte. Dieu les a libérés de l'esclavage d'Égypte, mais dans le cœur, ils ont emporté ces cultes d'idoles vraiment dégoûtantes, toutes sortes de reptiles. Mais ce n'est pas tout. Verset 14. Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel. À la porte du temple. Et je vis des femmes assises là qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. Il y a comme une escalade. Les responsables du peuple, les femmes. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si évident dans les cultures occidentales dans lesquelles nous vivons. Mais dans ces cultures de l'époque, la femme, surtout la femme au foyer, elle au moins, on pouvait compter sur elle pour penser au bien de la famille. Elle au moins. Peut-être les hommes, ils pouvaient se laisser emporter par toutes sortes d'alliances, mais la femme au moins priait Dieu pour le bien de sa famille, pour le bien du pays. Et là, ces femmes-là pleurent. Mais elles pleurent pourquoi? Elles pleurent pour adorer le dieu Tammuz, un dieu babylonien qui, disait-on, mourait au moment donc, où il y avait moins de récoltes et ressuscitait au printemps quand les premiers bourgeons apparaissait. C'est ça qui attriste ces femmes, que ce dieu Tammuz leur donne de bonnes récoltes pour que elles, leur famille et leurs enfants puissent bien manger. Personne ne s'attriste de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? L'Éternel a quitté le pays et tout le monde s'en fout. Viens Ézéchiel, tu verras des choses encore plus graves. Il m'entraîna vers le pavis intérieur du temple de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel était, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Il se prosternait en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Il me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, la communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse mérité. Regarde, les voilà qui lèvent le rameau jusqu'au nez. À mon tour d'agir avec colère, je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Et Dieu de poursuivre au chapitre 9, que nous lirons tout de suite, pour préciser comment sa colère va s'exprimer. À ce stade, à la fin du chapitre 8, j'aimerais qu'on réfléchisse. Voyez, il faut comprendre quand même le contexte. Dieu s'est cherché un peuple. Ce n'est pas le peuple qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui les a extraits de l'esclavage en Égypte, qui les a conduits sur une terre promise, qui a accepté d'habiter dans un temple construit par Salomon. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, une nation sainte aux yeux du monde, pour que tout le monde voit comment c'est de vivre pour Dieu. Qu'est-ce que c'est de connaître Dieu? Et là, on se rend compte que ça ne choque personne que Dieu ne soit plus là. Et encore, le pire, c'est que c'est pas que Dieu est parti à ce moment-là. Dieu est encore là, en fait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il m'irrite. Il me provoque. Il me nargue. Il m'ignore. Et même si on relit bien le chapitre 8, le verset 6, regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils font là, en fait, c'est pour chasser Dieu. Vas-y, va-t'en, va-t'en. Si Dieu n'est plus là, c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour nos affaires, c'est tant mieux. Et là, je me dis quand même, c'est fort ça. C'est fort. On a eu dans cette première partie du culte le thème « Dieu est ». Et là, on se dit, mais Dieu a choisi de se révéler par un peuple d'abord, de les installer sur une terre, de les conduire à l'adorer dans un temple. On regarde toute la terre entière. Dieu a choisi un petit pays. Dans ce petit pays, une petite ville. Dans cette petite ville, un temple. On s'est dit, mais dis donc. Et même dans ce temple, Dieu est chassé. Il n'y a pas de place pour toi ici. Où est Dieu? S'il n'est pas à Jérusalem dans ce temple, où est-il? Si même le peuple qui est censé mieux le connaître le rejette, alors on peut se dire, mais quelle est la place de Dieu dans ce monde? Quelle est la place de Dieu? Et là, je pense que le prophète doit ressentir quelque chose. Vous voyez, des fois, quand on lit ces textes, on se dit, mais oh, Dieu est méchant, Dieu est dur. Mais moi, je perçois plutôt un amour déçu. Où est ma place? Dit Dieu. Il me provoque, il m'irrite, et déjà il me chasse. Préférant pleurer le dieu Tammuz, préférant se prosterner devant des reptiles, préférant construire une statue à l'entrée de mon temple, mais une statue d'idole. Où est la place de Dieu au milieu de ceux qui étaient censés être son peuple? Et vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir. Où est la place de Dieu dans l'Église? Observe ta vie, réfléchis. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu dans l'Église? C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. L'Église est là pour proclamer que Dieu est, qui s'est révélé par Jésus-Christ. On veut bien entendre la voix de l'Église prêcher que Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est grâce. Mais si l'Église aussi rejette Dieu, alors où est Dieu? Où trouver Dieu? Devant tout cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire trois choses principalement. qu'il explique dans ce chapitre 9 que nous allons lire en entier. Puis je l'entendis crier d'une voix forte. Approchez, inspecteur de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. Je vis 6 individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'individu vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et lui dit « Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. » Puis je l'entendis dire aux autres, « Passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié. Soyez sans merci, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Puis, il leur ordonna, « Rendez le temple impur et remplissez ses parvis de mort. Allez !» Et ils partirent et frappèrent dans la ville. Pendant qu'ils frappaient, comme je restais seul sur place, je tombai sur ma face et je m'écriai, « Ah Seigneur, Éternel, en déchaînant ainsi ta colère sur Jérusalem, vas-tu exterminer tout ce qui reste d'Israël ?» Il me répondit, « Le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grave. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. » Les gens disent, l'Éternel a quitté ce pays, l'Éternel ne voit rien. Eh bien, je n'aurai aucun regard de pitié et je serai sans merci. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. À ce moment, l'individu vêtu de lin blanc, qui portait une écritoire à la ceinture, vint faire son rapport. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Voici donc, face à ce que dit le peuple dit, Dieu a quitté le pays, Dieu ne voit plus rien, Dieu ne peut plus rien faire. Face à ce que le peuple fait, les cultes d'idoles, Dieu répond en disant, dans un premier temps, je suis Dieu et je reste Dieu. Et comment le manifeste-t-il ? Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui juge. C'est lui qui appelle ces hommes, ces individus, comme il est dit dans ma traduction, et qui leur demande d'exécuter son jugement, sa sanction sur Jérusalem. Allez et sans pitié exterminer les vieillards, les femmes, les jeunes gens et même les enfants. Ce sont des textes qui sont durs, mais qui nous montrent que cette histoire de Dieu, cette histoire de suivre le Seigneur, ce n'est pas une rigolade. C'est une question de vie et de mort. Dieu est le souverain, Dieu est le seul juge, et c'est sa sanction qui va s'appliquer. Mais Dieu montre aussi qu'il est Dieu, en prenant soin de ceux qui se confient en lui, ceux qui soupiraient, ceux qui gémissaient, ceux qui se scandalisaient de ses abominations. Ceux-là reçoivent une croix sur le front. Et Dieu dit, ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Si Dieu s'en va, qu'il laisse faire ce qu'il veut, ou plutôt qu'il laisse faire ce que les hommes veulent. En quoi est-ce qu'il est Dieu? Sa présence est égale à son absence. Mais Dieu montre qu'il est le souverain, parce que c'est lui qui tranche, c'est lui qui condamne, c'est lui qui sauve. Et c'est lui qui finalement décide de quitter le temple. Il est dit au chapitre 9, verset 3, « Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. » C'est un premier pas. On verra la prochaine fois les chapitres 10 et 11 que Dieu du seuil du temple va partir jusqu'à la porte du parvis et se positionner sur une montagne et regarder de loin le sort réservé à la ville de Jérusalem. Oui, si vous dites que Dieu n'est plus là, je vais vous montrer ce que c'est que de vivre sans Dieu. Ils crieront à moi à tue-tête, mais je n'écouterai pas. Ils n'auront aucun secours. Et ils comprendront que c'était moi leur Dieu. Moi leur refuge. Moi leur secours. La vie sans Dieu. Dieu fera retomber sur eux ce que méritent leurs actes. Vous voyez, ces deux chapitres qu'on a lus aujourd'hui nous posent vraiment cette question. C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin, je pense, que le prophète Ézéchiel voit dans ses visions le véritable état du peuple de Dieu. Je suppose que lui aussi, il se disait, mais non, Dieu est quand même Dieu. Jérusalem ne peut pas tomber, le temple ne peut pas être détruit. Mais non, ça voudrait dire que Dieu est vaincu par les dieux des Babyloniens. Et là, Dieu lui dit, mais écoute, de quoi tu parles? Regarde l'état du peuple dont tu parles. Regarde l'état du temple dont tu parles. Quelle place Dieu a à Jérusalem? Quelle place Dieu a au milieu de ce peuple? Sont-ils encore le peuple de Dieu? Ce temple est-il encore le temple de Dieu? Dieu est chassé, comme mis dehors de son propre temple, de sa propre terre. Nous voyons là que Dieu décide, comme je l'ai dit, de manifester son jugement, sa sanction. Oui, Dieu est Dieu parce qu'il est aussi celui qui juge. Dieu est Dieu parce qu'il est aussi celui qui sauve. Et si nous voyons dans ce texte des morts, des gens qui sont épargnés de la mort, et que cela nous choque, sachons que tout ce que décrit l'Ancien Testament n'est qu'un type, une image de ce que Dieu va faire réellement un jour que lui seul sait. Jour du jugement dernier, tous les hommes paraîtront devant lui. Et ce jour-là, Dieu exprimera sa colère. Mais ce jour-là aussi, Dieu manifestera sa grâce à ceux qui auront soupiré, à ceux qui se seront attristés, à ceux qui auront refusé de suivre ce chemin, qui se seront confiés dans la grâce de Dieu. Pour leur salut, Dieu est venu lui-même payer le prix de leurs péchés. C'est ce qu'on a entendu ce matin encore. Ce Jésus-Christ qui est venu payer pour les péchés de ceux-mêmes qui s'attristent parce qu'eux aussi sont pécheurs. Mais le jour viendra où ils paraîtront devant Dieu sans péché. Ils seront surpris. Ah, moi ici, auprès de toi, pour l'éternité? Oui, parce que tu as cru en moi, parce que tu m'as fait confiance. Ceux-là se confient en Jésus-Christ et attendent le jour du jugement comme un jour de célébration, un jour de noces, un jour de grâce. Jésus est le sauveur du monde. En Jean 3,16, il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui Et il est dit, ne périsse point. Ça veut dire quoi? Il y a bien une question de mort. Ne périsse point, mais aie la vie éternelle. Nous mourrons tous. Mais là, il est parlé d'une seconde mort bien plus redoutable que celle que nous venons de lire. Celle qui consiste à passer l'éternité sans Dieu. Mais ceux qui placent leur confiance, leur foi en Jésus-Christ, ils auront la vie éternelle. Dieu les réveillera de leur cercueil et leur dira, viens, tu as bien fait de croire en moi, tu passeras l'éternité avec moi. Voici l'espérance et la foi que l'Église de Jésus-Christ témoigne au monde. À condition qu'on accepte que Dieu habite au milieu de nous. Le peuple croyait faire des choses en cachette. Des fois, dans l'église, on peut tomber dans ce piège. Je fais mes petites affaires en cachette. Si je ne viens pas à l'église, Dieu ne me voit pas. Si le pasteur n'est pas au courant, Dieu ne me voit pas. Et ça marche. Mes affaires prospèrent. Fais attention à toi. Si Dieu se retire de ta vie, tu t'en mordras les doigts. C'est ce qu'on vient de lire. Ils disent que je ne suis pas là. Ok, je vais leur montrer ce que c'est que de vivre sans moi. Ils crieront à moi, mais je boucherai mes oreilles. Que Dieu habite au milieu de son peuple. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. J'anticipe un peu. Que Dieu prenne plaisir à être au milieu de son peuple. C'était ça son choix dans l'Ancien Testament. Un temple construit à Jérusalem pour que les Israélites puissent adorer Dieu au milieu d'eux. Mais ils l'ont chassé, ils l'ont répudié, préférant se donner à des idoles, à des reptiles, à des poteaux, des statues. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es assis ici ce matin, aujourd'hui? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Ou bien tu fais partie de ceux qui pensent que finalement, c'est mieux pour moi, ça m'arrange, si Dieu n'est pas là. Ça fait mes affaires, si Dieu n'est pas là pour mettre sa bouche dans mes affaires. Franchement, ça m'arrange bien, si Dieu peut m'oublier. Ça me convient bien, si Dieu s'éloigne. C'est ce que tu penses? Ou tu fais partie de ceux qui s'attristent et qui se disent, mon Dieu, viens à nous. Viens à nous, ne nous quitte pas, je t'en prie. Viens à notre secours. C'est pour de tels textes que nous aimons les livres des prophètes. Ils sont là pour nous remuer un peu. Parce que bien des fois, quand on considère notre vie, on se demande bien, Seigneur, est-ce que tu es là? J'entends parler de toi les dimanches. Je vais au groupe de quartier, je chante tes chants. Mais quand je me retrouve seul en moi-même, tu es où? Je mène ma vie sans toi. Je fais mes choix sans toi. Je fais mes choses en cachette et je pense que c'est bon pour moi. Non, Seigneur. Non, non, non. Certains s'en accommodent. Et j'espère que ce n'est pas ton cas. Certains s'attristent, recherchant vraiment la face de Dieu. Et j'espère que c'est ton cas. Et si tu cherches la face de Dieu, tu la trouves en Jésus-Christ. Parce que Dieu aussi te cherche. Et il est venu jusqu'à toi. Où est Dieu? Où est Dieu? Seigneur, viens. Viens. C'est ce que crie l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Maranatha, viens. Nous, on t'attend. On t'attend les bras ouverts. On t'attend le cœur disposé. On t'attend le cœur ouvert. Viens à notre secours. Nous nous attendons à toi. Des fois, quand on voit certains documentaires qui nous montrent les coulisses, vous voyez, on dit, ah, là, c'est un abattoir. Très bien. Et puis après, on monte les coulisses. Oh là là, mais les animaux sont maltraités. Ou je ne sais pas quel autre exemple. On te montre par exemple les coulisses de la fabrication de belles baskets. Oh, les baskets sont jolies, mais derrière, oh, C'est les enfants esclaves qui le fabriquent. En Côte d'Ivoire, maintenant, il y a beaucoup de Chinois. Ben, je n'ai rien contre les Chinois. Hein, c'est des magasins de massage. Attention. Hein. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, oh, mais ça, c'est la mondialisation des salons de massage chinois en Côte d'Ivoire. Oh, mais c'est bien. Et là, j'ai ma belle-mère qui me dit ça. Non, mais ne te laisse pas impressionner par la vitrine. C'est des prostituées. C'est des esclaves sexuels qui sont là. Et là, j'étais là, ah bon? Que dire des fois des reportages que nous voyons sur des églises évangéliques? Ils aiment bien ça, les reportages sur les églises évangéliques. Où ils montrent les coulisses du culte dans les églises de la région parisienne, les églises ethniques. Regardez ce qu'ils font. Le pasteur ne fait que parler de l'argent. L'argent, tu peux payer par chèque, par carte bleue. Comme ça nous fait honte. Et des fois, on a même honte de dire que nous sommes des évangéliques à cause de l'image que ce mot a désormais suite à de tels reportages. Rien de ce qui est caché ne peut rester caché. Ne te cache pas devant Dieu, ça ne sert à rien. Tu peux te cacher devant le pasteur, tu peux te cacher devant les anciens, tu peux te cacher devant les responsables des femmes. Cela ne change rien à ta situation devant Dieu. Dieu préfère le cœur de l'homme qui se répand, qui le cherche vraiment et qui s'attriste et qui l'appelle. Que si Dieu pouvait faire un reportage dans nos vies cachées. C'est vrai, il y aurait des choses pas belles à voir. Mais quand même, que ce soit quelque chose où on sent que même dans ses difficultés, il cherche la face de Dieu. Que l'église de Jésus ne dise jamais ce qu'ils disent dans ces textes. Dieu a quitté le pays et bon débarras. Non, que jamais cela ne soit la parole de l'église. Nous voulons que Dieu vienne, demeure et reste au milieu de nous. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous lisons encore ces chapitres du livre du prophète Ézéchiel. Nous n'avons lu que la première partie de cette vision, mais déjà elle nous émeut, elle nous touche, parce que nous aussi nous sommes bien souvent comme ceux que tu critiques dans ces versets, faisant nos petites affaires, pensant que Dieu ne nous voit pas, et nous réjouissant même des fois du fait que Dieu ne nous voit pas. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi. Nous te prions, Père, que tu mettes en nous un cœur qui te cherche. Un cœur qui ne se satisfait pas que tu sois distant, mais qui te court après, qui saisit par la foi la grâce que tu nous tends. Aide-nous à garder notre foi en Jésus-Christ. C'est celui par qui tu nous sauves. Et par ton Saint-Esprit, viens habiter en nous. Que nous soyons ton temple, ton habitation, comme nous le verrons la prochaine fois, Seigneur. Viens habiter en nous. Nous t'attendons, nous espérons à toi, Seigneur. Tu connais la situation de chacun d'entre nous. C'est vrai, le dimanche matin, nous sommes assis les uns à côté des autres. Mais toi seul, tu sais ce qui se passe dans le cœur, les choses cachées, les peines, les souffrances, les joies. Éternel, mon Dieu, ma prière, c'est que tu visites chacun individuellement, afin vraiment que tu attires nos cœurs à toi. Que tu attires nos cœurs à toi. Qu'on ait un cœur qui ait envie de toi. Envie, soif et faim de Dieu. C'est ma prière pour chacun. Tu sais où on est chacun ici présent, Seigneur. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas mes paroles qui peuvent changer quelque chose. Mais c'est ton Saint-Esprit qui agit au plus profond du cœur de chacun. Tu nous dis encore aujourd'hui. Tu veux habiter au milieu de nous. Tu veux habiter parmi nous. Tu veux habiter en nous. Seigneur, nous voulons te faire toute la place. Que notre culte soit centré sur toi. Que notre adoration soit centrée sur toi. Que notre louange soit centrée sur toi. Et que notre vie soit centré sur toi. C'est notre prière, Seigneur. Nous te la confions, cette prière, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.